Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts?
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.
Dans la deuxième émission consacrée aux contrebassistes. Et donc là, derrière, vous entendez l'album Hum de Charlie Mingus, qui est un de Tapie.
Bien oui, bonjour, bah oui, hein, toujours ce très grand monsieur Charlie Mingus qui va encore nous accompagner. Quel bonheur!
Alors, donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des contrebassistes américains. Mais tout d'abord, on a donc vu la dernière fois hein, que la contrebasse faisait partie de la rythmique dans un groupe de jazz. Mais on va voir un petit peu en quoi consiste cette fameuse rythmique. Eh bien, donc, la section rythmique désigne en fait deux ou trois instruments plus spécialement chargés du rythme et de l'accompagnement des morceaux. Les instruments assurant la rythmique sont donc la batterie, qui assure le tempo et la dimension rythmique, la guitare basse ou la contrebasse, qui joue la partie de basse, quoi, voilà, et parfois la guitare rythmique, qui réalise les accords, par exemple, ou le piano, et parfois on va avoir aussi des percussions. Tu veux ajouter un petit mot?
Les percussions. Dans le domaine du jazz, c'est souvent des congas, hein, des choses comme ça. Oui.
Non, mais c'était pour la rythmique en général. Alors, dans les formations de jazz plus traditionnelles, on trouve aussi le washboard à la place de la batterie. Voilà, c'est ceux qui se promènent dans les rues, là, qui déambulent.
Voilà,
c'est pas facile de se promener avec une batterie. Alors, ils ont un washboard, c'est-à-dire la planche à laver.
Avec des dés, parce que s'ils ne grattent pas avec les doigts, parce que sans ça...
Avec des dés à coudre, quoi.
Ça ferait pas de bruit.
Souvent, on trouvait le banjo à la place de la guitare et le sousaphone ou le tuba à la place de la contrebasse.
Voilà, parce que c'est plus pratique si on doit défiler, de défiler avec un tuba ou un sousaphone qu'on porte sur l'épaule, qu'une contrebasse qui, même avec une roulette, c'est pas possible d'en jouer.
Et donc, on retrouve ces instruments dans le Jazz New Orleans, par exemple.
Voilà, et le banjo, parce que ça pèse, c'est beaucoup plus puissant que la guitare.
Voilà, qu'il a fallu d'ailleurs sonoriser pour pouvoir l'entendre. Quoi.
Oui, avec l'arrivée de l'électronique et tout ça.
Alors, ce que je vous propose, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un solo de contrebasse de Charlie Mingus.
Thank you.
Eh bien voilà, Monsieur Mingus, dans toute sa splendeur, quoi. Il a quand même un sacré son, ce bonhomme. Puis le grave, l'aigu, tout y va. Et c'était un très 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 grand musicien. Moi, quand je l'entends, ça, quand même, je dis chapeau. Bon là, la prise de son n'est pas terrible, hein, c'est du live, mais c'est un peu dommage. On voit pas le maître devant nous, mais je pense que les gens qui ont vu ce concert, ils ont dû être énormément impressionnés.
Voilà. Alors Charlie Mingus, il est né en 1922 en Arizona et il est décédé en 1979. Et donc à contrebassiste, compositeur et pianiste aussi de jazz américain, connu également pour son engagement antiraciste. Il a apporté une contribution majeure au jazz, à la fois en qualité de compositeur et chef d'orchestre, mais aussi, bien sûr, en tant qu'instrumentiste. Son tempérament excentrique est souvent effrayant et presque aussi connu que sa musique. Son refus de compromettre son intégrité artistique et un certain nombre d'expériences traumatisantes liées au racisme ont provoqué de nombreuses éruptions de colère sur scène ou ailleurs. Donc voilà, il y a parfois un peu effrayant. Une grande partie de la musique de Mingus est donc basée sur l'énergie du bebop et du hard pop, avec quand même une forte influence de gospel. Il s'intéresse à l'improvisation collective et est très attentif à l'interaction de chaque musicien avec la formation entière. Il va donc écrire des parties instrumentales en tenant compte des spécificités de ses musiciens, ce qui le rapproche des méthodes de Duke Ellington, pour qui il a une admiration sans limite.
Je crois même qu'ils ont enregistré ensemble.
En fait, voilà, en 77, il y a une sclérose latérale amyotrophique qui est diagnostiquée et il passe la fin de sa vie dans un fauteuil roulant. Sa dernière apparition sur scène a lieu au State University Theater de Phoenix. Et en 77, il est reçu par le président Jimmy Carter à la Maison Blanche en 78 et meurt 6 mois plus tard à Cuernavaca, au Mexique. Le Mingus Big Band, qui continue de donner des concerts, a été créé après sa mort par son épouse Sue Mingus, dont l'objectif est de jouer la musique de Mingus, en particulier les nombreuses compositions qui ont été découvertes après sa mort. Donc là, du coup, je vous propose d'écouter Boogie Stop Shuffle. Thank you.
Danny Richmond, le batteur de Mingus. Ah, c'est aussi un sacré bonhomme, celui-là. Là, c'est vraiment le tout. Bon, tout le talent de Mingus, quoi. C'est sur un boogie, hein, les fameuses 12 mesures, et comme quoi il prouve qu'on peut toujours faire quelque chose sur ces fameuses mesures du blues. C'est magnifique, quoi. C'est du grand Mingus qui nous étonne, quoi. Ça aurait fait un très bel indicatif pour une émission, ça.
Pour la prochaine fois. Alors, ce morceau, donc Boogie Stop Shuffle, date de 1959 dans l'album A-Hum, à l'origine écrit pour le film de John Cassavetes, Shadows. Mais en fait, la musique n'a pas été utilisée pour des raisons budgétaires. Cassavetes ne devait pas... Les producteurs n'ont pas eu assez de sous pour payer Charlie Mingus. Alors maintenant, on va parler d'un autre contrebassiste contemporain de Mingus qui s'appelle Oscar Pettiford. Alors lui, il est né en 1922 également, d'une mère Choctaw et d'un père mi-Cherokee, mi-Afro-Africain. Afro-Américain. C'est malin. Alors, il est décédé en 1960. Alors, il est contrebassiste, mais également violoniste et compositeur de jazz, surtout de bebop. Et Pettiford est considéré comme le pionnier du violoncelle en tant qu'instrument soliste dans le jazz. Alors, en 1942, il va intégrer l'orchestre de Shelly Barnett. Et en 1943, il va attirer l'attention, après avoir enregistré avec Coleman Hawkins, sur The Man I Love. À la même période, il va enregistrer aussi avec Earl Hines et Ben Webster. Lui et Dizzy Gillespie dirige un groupe bop en 1943. En 1945, Pettiford se rend en Californie avec Hawkins. Il apparaît dans The Crimson Canary, un film connu pour sa musique originale. Il joue ensuite avec Duke Ellington entre 1945 et 1948, avec Woody Herman, avant de se produire surtout comme leader dans les années 50. Il va déménager à Copenhague en 1958 et enregistré pour des labels européens. Et donc, en 1960, il va mourir d'un virus proche de celui de la poliomyélite. Donc, on vous propose d'écouter Blues in the Closet, une composition d'Oscar Pettiford de 1953. Thank you.
Bah, ça, c'est du boulot. Hein. Ces gars-là, ça joue le blues. Nom de Dieu.
Ils ne font pas semblant.
Donc, bah, là, oui. Alors là, il utilise, oui. Alors, est-ce que c'est le violoncelle ou la basse piccolo? Mais enfin, là, oui, encore un petit coup de heureux. Hein. Y a la contrebasse qui est derrière, qui soutient. Puis, pour les solos, quand même, des fois, il double la grand-mère, la grosse contrebasse, avec sa petite basse piccolo, quoi. Alors, ça fait un super son. Puis tout, les arrangements et tout ça, avec le pianiste, tout ça, c'est de l'orfèvre. Ah, ça fait du bien d'entendre ça.
Donc, maintenant, on va vous parler de Sam Jones. Alors, lui, il est né en 1924 et il est décédé en 81. Donc, bassiste, violoncelliste aussi et compositeur. Il a joué avec Tiny Bradshaw, les Jazz Mod, Kenny Dorham, Illinois Jacket, Dizzy Gillespie et Monk aussi. Il est plus connu pour son travail avec Julian Cannonball Adderley.
Ah oui, la fameuse version d'Autumn Leaves avec Miles, hein, qui est un des morceaux les plus connus de jazz. Hein.
Voilà, mais c'est pas celle qu'on va vous faire écouter.
Non, mais on vous l'a déjà passé plusieurs fois.
Il a aussi travaillé avec Oscar Peterson, Cedar Walton, enregistré avec Bill Evans dans les années 50. Et sa carrière s'est principalement déroulée, hein, sur la scène jazz de New York. Donc là, on vous propose d'écouter Just Friends de l'album The Soul Society, enregistré en 1960 à New York avec Nat Adderley,
le frère,
Blue Mitchell, Jimmy Heath et Bobby Simons.
c'est une sacrée bande encore, hein, que la session de cuivre, hein. Bah, ça fait le boulot. Hein. Beaucoup de gens de Chad Blackie là-dedans, des Jazz Messenger, on trouve. Et puis, donc là-bas, on a encore eu un petit coup de recording parce qu'il y avait deux basses. Hein. Il y avait la petite basse solo, hein, la piccolo basse, et puis la grosse basse derrière. Quoi. Mais bon, bah, c'est vrai, ils jouaient tous les deux, là, les deux gars, là, Oscar et Louis Sam. Sam.
Bah ouais,
Sam Jones. Bah, c'est agréable d'entendre. C'est des bons clients, ça.
Alors maintenant, on va vous parler de Ray Brown. Alors lui, il est né en 1926 à Pittsburgh et décédé en 2002 à Indianapolis. Alors, il étudie tout d'abord le piano, mais comme il déteste s'exercer, il se dit que s'il passe à la contrebasse, comme il n'y a que 4 cordes, ça doit être plus facile à manier que les 88 touches du piano. Moi, en fait, ce qu'il aimerait vraiment, c'est jouer du trombone, mais comme son père ne pouvait pas lui acheter un trombone, il a donc choisi la contrebasse parce que le conservatoire pouvait lui prêter une contrebasse. Alors, il apprend surtout à l'oreille, mais se met quand même à travailler son instrument intensément. Et comme il est très doué, bah, il va rapidement pouvoir se produire. Et dès qu'il a eu son diplôme universitaire en poche, il va partir en tournée avec divers orchestres. À 20 ans, il part pour New York, où il est là rapidement engagé par Dizzy Gillespie, qui lui fait une place, hein, dans son groupe, dans lequel jouent également Charlie Parker, Bud Powell ou encore Max Roach. Il va fonder son propre trio dès 1948 et il va épouser d'ailleurs Ella Fitzgerald, avec qui il va adopter un enfant, Ray Brown Jr., qui est né donc le jour de son 23e anniversaire, le fils de la demi-sœur d'Ella Fitzgerald, et le 13 octobre donc 1949. Il rencontre Norman Granz et fait partie des tournées Jazz at the Philharmonic. Il va divorcer d'Ella en 1953. Alors, il va devenir membre du trio d'Oscar Peterson, et lorsqu'il quitte celui-ci, il va s'installer à Los Angeles pour jouer, composer pour le cinéma et profiter quand même du climat agréable de la Californie. Il y mène également une carrière de manager pour des gens comme Quincy Jones quand même, ou le Modern Jazz Quartet. Et pendant un certain temps, il est même le directeur du Monterey Jazz Festival. Alors, la longueur de sa carrière va interdire de le classer dans un genre particulier du jazz, puisqu'il a vécu différentes époques, hein, le Main Street, le Big Band, le Bebop, le Hard Bop. Et donc, Oscar Peterson et lui ont enregistré ensemble pas moins de 240 albums. Voilà, ça, c'est des gens qui travaillent, hein, ils en veulent, comme on dit.
Et c'était lui l'ami et on va dire le mentor de Pierre Boussaguet, qu'on vous a passé à le maître de Pierre Boussaguet quand vous avez passé l'émission précédente.
Voilà.
Alors lui, le son, attention. Ça, c'est le son de contrebasse, accrochez-vous.
Donc voilà. Alors, on va donc vous passer comme morceau « You Look Good To Me », enregistré à Montreux en 1977, donc avec Oscar Peterson, Ray Brown et Nop, dont on vous a parlé aussi la dernière fois.
Il a chopé.
Bah, c'est plus drôle de dire ça, je trouve. Thank you.
C'est impressionnant. Oh là là, vous prenez les trois des meilleurs musiciens du monde, vous les mettez à Montreux, c'est Montreux, quelle ville. Oh là là, il y a eu des moments de jazz absolument merveilleux dans cette ville. Et là, ils y vont. Hein. Mop et Oscar Peterson et Ray Brown. Oscar Peterson, oui, c'est un morceau de Michel Legrand là, qui nous a passé.
Oui, un morceau connu, mais je sais pas comment ça s'appelle.
C'est encore agréable. Hein. Les gars, ça déménage. Hein. Oh yeah, yeah.
Alors, on va vous parler d'un autre natif de Pittsburgh, mais là, lui, il est né en 1935. C'est Paul Chambers. Surtout connu dans les années 50 et 60, puisque malheureusement, il est décédé en janvier 1969. Alors, lui, même s'il est né à Pittsburgh, il va grandir à Détroit et il adopte la contrebasse en 1949. Il se met vraiment à l'instrument au début des années 50 quand il prend des leçons avec un bassiste du Détroit Symphony Orchestra. Et voilà, donc il va gagner en importance en tournant avec des musiciens comme Benny Green, Kenny Chet, George Wellington, Gigi Johnson ou Kay Winding. Et en 55, il va le rejoindre le Miles Davis Quintet, dans lequel il va rester jusqu'en 63. Il va enregistrer plusieurs de ses grands classiques, notamment Kind of Blue, le premier morceau de ce disque, So What, qui ouvre avec une brève introduction jouée en duo avec le pianiste Billy Vance et constitue l'une de ses performances les plus notables. Alors par la suite, le jazzman va jouer avec Wynton Kelly Trio. Il continue aussi à enregistrer avec d'autres grands noms du jazz tout au long de sa carrière, comme John Coltrane, Art Blakey et Sonny Rollins. Sur la fin de sa vie, Paul Chambers devient non seulement dépendant de l'alcool, mais aussi de l'héroïne. Et il décède prématurément d'une tuberculose à l'âge de 33 ans. Son importance peut être mesurée non seulement par l'ampleur de son travail dans cette courte période, mais aussi par sa maîtrise artistique et technique. De nombreux musiciens ont écrit des morceaux en hommage à Paul Chambers. On peut notamment citer Mr. Pizzi de John Coltrane, Big Paul de Tommy Flanagan, Pulse Paul de Sonny Rollins ou encore The Pixie Blues de Red Garland. Donc là, on vous propose d'écouter Yesterday, enregistré en 1957 sur l'album Bass on Top. Thank you.
Eh bien, une des spécialités de...
Voilà, t'as oublié le nom. Chambers.
De Paul Chambers. C'est l'archer, quoi. Tous ses solos, il les prenait à l'archer, alors qu'il faisait l'accompagnement speed. Mais on vous a tellement passé de morceaux où il joue, que, surtout dans Kind of Blues, cette fameuse version de So What, où il fait l'intro à la basse et tout. Mais là, bon, bah, il met tout son savoir à l'archer. C'est magnifique, quoi. C'est très émouvant, c'est très beau. C'est un gars qui jouait toujours bien. Non, bravo. Bravo, Paul Chambord.
Alors maintenant, un autre contrebassiste, hein, c'est Rocco Scott Lafaro. Lui est né en 1936. Et son père était déjà violoniste et qui jouait dans des orchestres de jazz de Paul Whiteman, Tommy Dorsey ou Jimmy Dorsey. Donc il baignait déjà dans le...
Ah bah oui, les grands orchestres, quoi. Voilà, les années 30.
Donc dès 11 ans, bah, il commence à étudier la musique, il part le piano, la clarinette. Et c'est que vers 16 ans qu'il va s'intéresser à la contrebasse, tout en continuant le saxophone d'ailleurs. Et puis, donc, dès la fin de ses études, il commence à se produire dans des orchestres de la région. Et puis, il est engagé en 55 dans le groupe de Buddy Morrow et aussi dans le quintet de Chet Baker entre 1956 et 1957. Et après l'exil forcé de Chet Baker en Italie, Lafaro va s'installer quelques mois à Los Angeles. Et puis, où il va se produire, entre autres, avec Barney Kessel au Club Lighthouse d'Howard Rumsey. Et puis, alors, comme c'est un fin lecteur, déjà virtuose, il enregistre et tourne avec Hampton House, Victor Feldman, Harold Land, Marty Page et Stan Kenton. Il va remplacer pendant plusieurs semaines le contrebassiste Leroy Vinegar, blessé dans un accident de voiture, dans la formation du saxophoniste Stan Getz. Et d'ailleurs, il y a un enregistrement réunissant Stan Getz et les vibraphonistes, je vais y arriver, Cole Tjader, ayant été programmé pendant cette période. Lafaro participe à l'album Cole Tjader, Stan Getz, Sextet. Alors, voilà, après, bah, il va aussi jouer avec Ornette Coleman, il va... Je veux parler dans la formation du pianiste Paul Bley. Voilà.
Et le mari de Carla.
Voilà, qui dira Bruni, d'ailleurs. Carla Bley. Et qui dira de lui d'ailleurs, on le plaçait au devant de la scène car il était le seul bassiste à pouvoir jouer les mélodies aussi vite. Et puis, il y a un album d'ailleurs qui va être enregistré, mais les bandes matrices vont être détruites par Paul Bley. Bon, pas très sympathique. il va jouer aussi donc avec Benny Goodman, Thelonious Monk, etc. Et donc il va jouer aussi avec dans le trio du pianiste Bill Evans. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire encore de lui? Bon, il enregistre plein de choses. Hein. Il va aussi participer donc en 1961 au Newport Jazz Festival. Et puis il joue donc avec Sonny Rollins, Booker Little, Steve Coon, Don Friedman, Herb Geller.
Et Evans.
Oui. Ouais,
ouais.
Et il va en fait en 61, une dizaine de jours après les mythiques sessions du Village Vanguard avec Bill Evans, Scott Lafaro va se tuer en voiture sur la route de Geneva à New York, dans le district de New York. Voilà. Donc, ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est un morceau intitulé Chart on My Heart. Donc, c'est une performance en live en 1958 dans un show télévisé. Et donc, il joue avec Richie Kamika Quintet, dont fait partie Frank Rossolino, célèbre trombone dont on vous a déjà parlé, Stan Levy à la batterie et Victor Feldman au piano.
Dans le mouvement bebop, hein, de la côte, là on est côte ouest, hein, ça déménage, hein, ça va vite, hein, on croirait que les mecs ils sont pressés d'aller se retrouver au bar, alors ils prennent le morceau à une vitesse incroyable, quoi. Faut y aller quand on joue du trombone, hein. Y a que des gars comme Franck Rossolino pour jouer à cette vitesse là. Bon, c'est magnifique.
Bon, ben c'est bien. Alors maintenant, on va vous parler d'un dernier contrebassiste. Alors, bon, on avait prévu vous parler de Ron Carter, mais bon, j'ai des fausses manœuvres. Voilà, j'ai pas le morceau. Donc, on va vous parler tout à l'heure, on parlait tout de suite là, de Scott Lafaro, qui avait joué avec Chet Baker. Eh bien, ensuite, une fois Chet Baker arrivé en Italie, il a joué avec Riccardo Delfra. Autre contrebassiste, donc et compositeur italien, qui lui est né en 1956 et qui dirige actuellement le département de jazz et musique improvisée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris. Et
voilà. Ah oui, ça fait. Il est arrivé dans les années 80 à Paris, Riccardo Delfra. Ouais. Très, très, très bon contrebassiste.
Voilà.
Très beau son.
Donc là, on vous propose d'écouter un morceau. Alors, pendant d'ailleurs, parce que le morceau dure 10 minutes. Hein. Mais le morceau s'intitule How Deep is the Ocean? Donc, enregistré en 1986 à Hambourg, où on retrouve donc Riccardo Delfra à la contrebasse, Chet Baker, trompette, et Philippe Catherine, guitare.
Philippe Catherine, le guitariste, hein, oui. Ne pas confondre avec chansonnier
avec
français.
Voilà.
Guitariste belge.
Thank you.
ça a le son, hein, tout ça, encore une sacrée bande.
Donc, je vous rappelle, hein, donc c'est Ricardo Delfra qui a joué donc, avec Chet Baker pendant presque 10 ans. Alors, à savoir que Ricardo Delfra, il avait commencé en jouant dans des enregistrements de plusieurs musiques de films, notamment, par exemple, celle de La Cité des Femmes de Federico Fellini, ou encore La Peau de Liliana Cavani, ou encore avec aussi Ennio Morricone. Voilà, donc, eh bien, on espère que cette seconde émission sur les contrebassistes vous aura convaincu que la contrebasse est un instrument magnifique.
Et indispensable dans les orchestres.
indispensable dans les orchestres. Voilà. Et donc, on vous souhaite bien un bon dimanche.
Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.